Merci, je vais continuer en français. C'est vrai que j'aurais pu rajouter ici une pléthore de noms, un certain nombre d'étudiants de Master 1, Master 2, de stagiaires, d'apprentis qui m'ont accompagné pour vous présenter ce que je vais vous faire aujourd'hui. Je l'ai appelé les animaux du château, tourisme de nature à Chambord, mais en fait, ce travail fait la synthèse, je vais essayer de le faire en 10 minutes, de deux programmes de recherche. Le premier, Natour, qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, que j'ai coordonné avec une collègue parisienne, Saskia Cousin, une sociologue, spécialiste des questions de tourisme. Et le second, donc Costaud, que notre collègue a bien voulu accompagner. Ces deux programmes de recherche répondaient à deux questions totalement différentes. Le premier, Natour, avait pour objectif de comprendre les relations qu'il pouvait avoir entre la nature, les paysages et les visiteurs, en termes de balade nature, en termes de vélo, en termes de goût du terroir, etc. Et le second projet, Christophe en a parlé tout à l'heure, il s'agissait donc de voir la contribution, en tout cas la partie dont j'avais le travail, avait pour objectif d'étudier la contribution des ongulés aux services écosystémiques, notamment culturels. Pardon, je reprends. Alors, je parlais de deux programmes de recherche. Le premier, Natour, qui étudiait les relations entre la nature, les paysages et les visiteurs, donc tout ce qui était autour. Et le second projet, qui est Costaud, Christophe en a parlé tout à l'heure, la partie dont je m'occupais, c'était de comprendre la contribution des ongulés aux services écosystémiques dans le domaine national de Chambord. Donc, je vais aujourd'hui juste vous parler de la philosophie du domaine national de Chambord en termes de développement touristique et comment la nature, les ongulés et tout leur environnement participent à cette mise en tourisme du domaine national de Chambord. Trois parties vont organiser mon propos aujourd'hui. Je vais revenir très rapidement sur le contexte et la problématique. Amélie en a parlé tout à l'heure, on en a beaucoup parlé dans la journée. Je vais faire une seule diapo très rapide sur les méthodes parce que je n'aurai pas le temps de vous faire une synthèse de 5 ans de méthodes. Je vais m'arrêter un peu plus sur cette philosophie touristique entre tourisme de masse et tourisme sur mesure qui va découler tout doucement vers un tourisme durable. Donc, le domaine de Chambord, je passe très vite, maintenant vous savez ce que c'est. Un fait historique quand même relativement rare. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, malgré une succession de propriétaires, on garde la même entité, ce qui permet d'avoir une épaisseur historique relativement intéressante. Almi en a parlé et hier, la première communication en a parlé également. Dans ce domaine de Chambord, Amélie l'a dit, ça s'appelle le domaine de Chambord, le domaine national de Chambord. Il y a le château, et autour du château, son parc, à peu près de 5000 hectares, vous le savez. En vert ici, c'est la partie ouverte au public, la partie du parc ouverte au public. Donc c'est juste une toute petite partie. Donc, il y a le château. Je ne vais pas parler aujourd'hui du village, qui n'est pas encore mobilisé dans la philosophie de mise en tourisme, mais ça va peut-être arriver un jour. Donc, ce château, finalement, a trois entités, mais je vais me limiter sur deux entités. Le château, donc je passe vite, on en a parlé longuement, qui est aujourd'hui l'élément touristique. Je pense que pas mal d'entre nous sont ici, parce que le colloque est super intéressant, mais c'est Christophe. C'est aussi parce qu'on est à Chambord. D'abord, le château. Mais autour de ce château, on a aussi, je vais aussi passer très vite, le parc. Donc, on a des spécialistes du parc. Donc, voilà, vous avez, on a des chiffres, on a entendu des chiffres, des animaux qui étaient un peu différents, mais avec une charge animale relativement forte. C'est aussi l'une de ces marques ici. Donc, c'est un parc totalement géré, totalement construit, j'allais dire, aussi construit que le château pratiquement. Sinon, naturellement, on n'aurait pas un parc comme celui-là. Mais aujourd'hui, vous êtes totalement conscient de cette histoire. Une frise historique que Amélie et Sylvie ont produit dans leur axe, qui est une frise de mise en patrimoine du château. Deux dates ici qui vont nous intéresser. 1930, le château devient la propriété de l'État et devient le domaine national de Chambord. Propriété de l'État, ça veut dire que toutes les... au niveau du budget, c'est directement géré par l'État. Donc tout ce qui rentre comme budget, c'est géré par l'État, ça rentre dans les caisses publiques. Et ensuite, l'État donne une subvention, alors ce n'est pas le bon terme, pour pouvoir permettre au château de vivre. Donc en 2005, les choses changent un tout petit peu. À partir de 2005, l'État, les charges changent son fusil d'épaule et décide de faire du domaine national de Chambord un EPIC, un établissement public industrielle et commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme l'Istria, comme Réseau Ferré de France, comme la RATP, l'établissement doit être à l'équilibre au niveau de son budget entre les dépenses et les recettes. Donc ça veut dire que l'État mettra de moins en moins d'argent et il faudra que Chambord se débrouille tout seul. Alors l'État a donné jusqu'en 2020 à Chambord pour être indépendant sur le plan financier. Ça reste une propriété de l'État. C'est un bien public, mais c'est un bien public géré avec des fonds propres. Donc ce changement philosophique va entraîner finalement les gestionnaires du château de Chambord à trouver des solutions pour changer la visibilité du château de Chambord, pour attirer un maximum de public. Bien sûr, le budget de Chambord est fait sous forme de dotation, sous forme de mécène, mais il y a une bonne partie qui revient en fait à la billetterie. Donc il fallait augmenter quelque part le nombre de touristes. Et dans cette augmentation du nombre de touristes, l'aspect parc, a pris un impact important. Et c'est ici où je raccroche au service rendu par Chambord. C'est vrai, quand on parle de service écosystémique, je vais passer très vite dessus parce que ça a été dit hier. Souvent, on pense aux services naturels, on pense aux fonctions de l'écosystème qui va entraîner des services, etc. Mais ici, le service dont on va tirer, en fait, c'est les touristes qui vont venir. Et le bénéfice, ce sera le prix d'entrée qui va être fait. Je passe. Donc finalement, on va plus se focaliser sur les services écosystémiques culturels, qui est le parent pauvre des services écosystémiques. Quand on parle de services écosystémiques, souvent, c'est l'espace naturel. Mais nous, on va vraiment s'intéresser à l'aspect culturel. Et dans cet aspect culturel, le tourisme est un élément parmi d'autres. Alors, finalement, quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre très rapidement par la suite. Comment le domaine de Chambord va donc communiquer autour de son patrimoine naturel? Qu'est-ce qui va être mis en place concrètement sur le terrain pour développer une manne touristique forte? En termes naturels, je vais rester dessus. Quelle est la peur? Alors, je n'ai pas réussi à répondre à cette question, mais je la pose quand même. Quelle est la peur du tourisme non naturel par rapport du tourisme non culturel par rapport au tourisme naturel? C'est bien plus compliqué à répondre parce que les deux sont très fortement croisés, parce qu'une image derrière qui se crée, je reviendrai tout à l'heure, et finalement, quelle est la place du cerf et de l'animal, plus généralement, dans le domaine national de Chambord. Alors, une diapo de méthode. On a pratiqué une sociologie participante. Je remercie d'ailleurs tous les gestionnaires, une grande nombre qui sont ici, qui nous ont accueillis, moi et mes étudiants, pendant un certain nombre d'années. On a assisté à pratiquement toutes les activités payantes et gratuites du parc, c'était la partie sympa. On a essayé de s'insérer dans la vie de la gestion du parc, notamment les activités de panotage. On en reparlera si vous avez des questions. Mais on a également beaucoup travaillé sur toute la production grise du château. Alors, il y a une chaîne YouTube, il y a pas mal de films animaliers qui sont produits, qui est une manne, un matériau intéressant à travailler. On a également travaillé sur tous les documents de communication, les flyers qui sont produits à quelques milliers d'exemplaires chaque année. D'ailleurs, on ne les garde pas dans les archives, c'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à analyser dessus. Et bien sûr, on a essayé, mais le résultat n'est pas concluant, on a essayé de travailler sur les traces numériques des touristes qui passent à Chambord, qui postent sur Internet, sur des plateformes comme Flix, TripAdvisor ou Panoramio, d'autres. J'y reviendrai, ce n'était pas une totale réussite, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on ferait par la suite. Finalement, qu'est-ce qui en ressort? Aujourd'hui, à Chambord, on est autour de 1 million de touristes. Alors, on dit entre 750 et 1 million. 750, on était plutôt dans les années 2010. Aujourd'hui, à peu près 1 million. 2017, de 1 million, j'y reviendrai. On est vraiment ici dans ce qu'on appelle un tourisme de masse. On a un site fermé, c'est le cas de Chambord. C'est large, mais fermé quand même, dans lequel passe chaque année à peu près 1 million de personnes. C'est vraiment un tourisme de masse, comme on peut en avoir partout en France. Je parle du Mont-Saint-Michel ou autre, je reviendrai sur le Mont-Saint-Michel tout à l'heure. Mais dans le cas de Chambord, un travail important a été fait pour édulcorer ce tourisme de masse en proposant une coloration qui n'est pas propre à Chambord, mais dont Chambord essaie de développer d'une manière très très forte, une activité qui balance entre culture et nature. Bien sûr, dans les recettes du domaine national de Chambord, le tourisme du château représente quelque chose d'important. Mais de plus en plus, le domaine de Chambord essaye de mettre en avant les offres nature, que ce soit la forêt, les animaux de la forêt, on en a vu tout à l'heure, pour participer non pas directement à la manne financière, mais à fabriquer une image globale dont je reviendrai tout à l'heure. Tout ceci se concrétise sur le terrain par une gestion bien précise. On a des spécialistes dans la question, dans la salle, on en a parlé longuement, mais ça participe quelque part à une démarche globale. Même si on l'a vu hier, ce n'est pas d'hier que la partie parc est bien sûr gérée d'une manière relativement fine, mais depuis 2005, il y a un gap supplémentaire qui a été mis en avant, non pas seulement gérer la nature parce qu'il faut le faire, parce que c'est pour la chasse. D'ailleurs, les questions de chasse ne sont pas tellement mises en avant aujourd'hui dans la communication du Chambord, parce que la chasse est toujours, en termes conception publique, toujours discutée. Cette gestion participe maintenant très fortement à l'image du château. Ce que les gestionnaires essaient de mettre en place, c'est de rendre le touriste actif pendant sa visite. Et il ne s'agit pas d'un touriste de vision comme on pourrait le faire dans un zoopark comme à Beauval ici à côté. On est vraiment actif pendant la visite et cette activité va se faire sous forme payante ou sous forme gratuite. Alors il y a un catalogue relativement complet que vous pourrez voir sur le site internet du domaine national de Chambord. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a la partie, le dernier né, c'est la grande promenade, mais il y a le vignoble qui est en train d'être, bientôt il sera productif. Derrière tout ça, il y a également toute une philosophie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette démarche touristique se fait dans le sens éthique, responsable, respectueux. Donc on commence à rentrer tout doucement. Alors vous voyez, on est parti d'un tourisme de masse. On va de plus en plus vers un tourisme pratiquement sur mesure, un tourisme participatif dont je parlais tout à l'heure, avec des découvertes qui sont faites, avec une éducation à l'environnement, avec, bref, on est dans une démarche totalement, totalement vertueuse. En tout cas, c'est dans la philosophie. En tout cas, c'est la philosophie qui essaie d'être mise en avant. Ce que font les gestionnaires du parc et tout simplement, plus globalement, le salarié du domaine national de Chambord, c'est de considérer les visiteurs non pas comme des touristes, mais comme des hôtes, en fait, à qui on fait découvrir son domaine. C'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans nos entretiens. Et donc, aux hôtes, on les fait découvrir une expérience unique. Alors, 1 million de visiteurs, mais derrière, il y a l'idée, d'aller vers une expérience unique avec des médiations, des discours qui sont faits. Tout à l'heure encore, j'entendais l'un des gestionnaires me dire, on va venir écouter parce que à côté de nous, pour nos visiteurs, il faut leur apporter des choses nouvelles, etc. On est vraiment dans une démarche très individuelle, en fait. Tourisme culturel, le château. Tourisme de nature, le parc. On arrive de plus en plus vers un tourisme participatif qui est une forme de tourisme sur mesure. Je passe relativement vite, je n'ai pas le temps de développer ici. Bref, il y a une participation du touriste à son activité touristique, en fait. Il n'est pas là juste pour être accompagné, il est acteur de son tourisme. Et finalement, je disais tout à l'heure, ce tourisme se mue tout doucement en tourisme durable. Je ne vais pas détailler, avec un résultat. L'objectif, c'était 1 million de touristes en 2020. L'objectif a été atteint en 2017, donc 3 années avant, donc avec un résultat plutôt intéressant. Une production touristique, je le note ici, qui est hybride, comme on le voit très peu en France. C'est un espace fermé dans lequel énormément de personnes viennent. Il y en a d'autres, entre culture et nature. Je parlais du Mont-Saint-Michel, c'est à peu près la même chose, même si, bien sûr, toute proportion gardée. Au Mont-Saint-Michel, ils revendiquent très fortement un tourisme, une industrie touristique. 3 millions de visiteurs, c'est leur positionnement marketing, en fait. À Chambord, l'idée est tout autre, en fait. L'idée, c'est d'aller vraiment vers ce tourisme participatif dans lequel l'image qui doit être retenue après la visite, c'est vraiment le château. Et derrière, le cerf. D'ailleurs, dans toute la scénographie, je n'ai pas eu le temps d'en parler, on a toujours un cerf quelque part à côté du château. Alors, on aurait voulu étudier ce qu'en pensent les touristes. Ce n'est pas simple d'interroger 1 million de personnes. Avec une temporalité dans l'année, vous avez aujourd'hui, il n'y a personne, mais en été, on a moins d'étudiants, c'est plus compliqué. On a voulu étudier leurs traces numériques. On a eu quelques bugs on va dire, de méthode. Donc finalement, cela n'a pas été travaillé jusqu'au bout. Mais peut-être si un jour on poursuit dans le projet, pourquoi ne pas travailler sur ce que pensent les touristes après être venus à Chambord. Ça, je ne sais pas et je ne sais pas qui pourrait me dire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.